Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
17h30 en temps universel, Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Au micro, Dilly Dico, bonsoir. À la une de l'actualité, ce jeudi 31 août, au Gabon, les putschistes ont rencontré l'opposition qui leur demande de reconnaître leur victoire alors que les Gabonais attendent d'en savoir plus sur la transition. Le Burkina Faso autorise l'envoi d'un contingent militaire au Niger. En Afrique du Sud, plus de 70 morts dans l'incendie d'un immeuble à Johannesburg. Dans l'est de la RDC à Goma, au moins 48 civils et un policier ont été tués hier suite à une opération militaire.
Hier à Goma, il s'est passé un carnage commis par les FARDC. Ils ont décidé d'aller tuer les manifestants qui appartiennent à un groupe religieux connu à Goma. Et déjà moi, en parlant avec des familles des victimes, j'ai pu identifier qu'il y avait plus de 50 morts.
Ne manquez pas notre rubrique économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Au Gabon, le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions doit prêter serment lundi prochain à Libreville. Brice Oligui Nguema a annoncé la mise en place progressive des institutions de la transition et promis que le pays va respecter tous ses engagements extérieurs et intérieurs. Il a aussi demandé à tous les responsables des services de l'État d'assurer la continuité du fonctionnement des services publics. L'opposition réunie au sein de la plateforme Alternance 2023 vient de se prononcer sur le putsch des hommes du général Brice Oligui Nguema. On écoute Mike Joktan, porte-parole d'Alternance 2023.
La plateforme Alternance 2023 invite les forces de défense et de sécurité à la responsabilité et au patriotisme afin d'éviter à notre pays des lendemains encore plus sombres que ceux qui lui ont été épargnés. La plateforme Alternance 2023 invite les représentants des forces de sécurité et de défense à la discussion afin d'évaluer dans un cadre patriotique et responsable la situation et de trouver entre Gabonais les meilleures solutions, la meilleure solution qui permettra à notre pays de sortir grandi de cette situation.
L'opposition gabonaise a aussi demandé aux putschistes de reconnaître la victoire de leur candidat, Albert Ondo Ossa, à la présidentielle. Après avoir remercié vivement l'armée de s'être dressée contre un coup d'État électoral, Mike Joktan l'a invité à superviser la reprise du processus de centralisation des résultats de la présidentielle. Les putschistes n'ont pas répondu à cette demande. De son côté, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de suspendre immédiatement le Gabon. L'organe condamne fermement la prise de pouvoir militaire en République du Gabon. Il décide de suspendre immédiatement la participation du Gabon à toutes les activités de l'UA, de ses organes et institutions jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel. Au Niger, la junte a ordonné jeudi l'expulsion de l'ambassadeur de France dans une lettre adressée au ministère français des Affaires étrangères qui a réaffirmé que les putschistes n'ont pas l'autorité requise pour faire une telle demande. Vendredi, la junte avait donné 48 heures à l'ambassadeur Sylvain Ité pour quitter le Niger. Et lundi, Emmanuel Macron a indiqué que l'ambassadeur de France au Niger resterait dans le pays. Dans une lettre datée du 29 août, les militaires nigériens ont informé le Quai d'Orsay de leur décision et dit qu'elle est irrévocable et que les services de police ont reçu instruction de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur de France. Par ailleurs, le gouvernement burkinabé a approuvé un projet de loi autorisant l'envoi d'un contingent militaire pour soutenir les militaires nigériens menacés d'une intervention armée de la CDAO. Nathalie Barge.
Dans un compte-rendu du Conseil des ministres, le gouvernement burkinabé indique que les modalités d'envoi du contingent ont été fixées d'un commun accord entre les autorités des deux pays. Le ministre de la Défense, Kassoum Koulibaly, a déclaré que ce qui touche à la sécurité du Niger touche fondamentalement à la sécurité du Burkina Faso. La semaine dernière, le général Abdourahmane Tiani, au pouvoir au Niger, a signé un décret autorisant les forces armées du Burkina Faso et du Mali à intervenir sur le sol nigérien en cas d'agression ou de déstabilisation armée extérieure. Le colonel Koulibaly a affirmé que l'envoi d'un contingent burkinabé au Niger est une continuation de la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso et le Mali sont également confrontés à des violences djihadistes. Après le coup d'État du 26 juillet à Niamey, ces deux pays voisins ont affiché leur solidarité avec les nouvelles autorités nigériennes face à la menace brandie par la CDAO d'intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel. Ils avaient mis en garde l'organisation ouest-africaine contre toute intervention au Niger qui serait assimilée à une déclaration de guerre. Ce projet doit être soumis à l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso pour adoption.
En République démocratique du Congo, au moins 48 civils et un policier ont été tués mercredi à Goma dans une opération militaire destinée à empêcher une manifestation contre l'ONU. Ce nouveau bilan a été établi à partir de sources locales et d'après un rapport de l'armée. Un document interne des forces armées congolaises précise que 75 personnes ont été blessées du côté des manifestants, des armes blanches ont été saisies et 168 personnes ont été arrêtées. En Afrique du Sud, un incendie a ravagé un immeuble de Johannesburg la nuit dernière. Le dernier bilan fait état de 74 morts. Claire Morin-Gibourg.
Les victimes ont été prises au piège, enfermées derrière les grilles verrouillées d'un immeuble de 4 étages, et le bilan pourrait s'alourdir. Le bâtiment est situé dans le centre-ville, frappé par l'insécurité. À chaque étage, des grilles sont fermées chaque soir à double tour pour éviter des cambriolages. Quand l'incendie s'est déclaré, la panique a envahi les occupants. Certains se sont jetés par les fenêtres pour échapper aux flammes. Le feu a été maîtrisé ce matin. La police, des médecins légistes et élus locaux sont sur place. Le président Cyril Ramaphosa a déploré une immense tragédie pour les familles dont les proches ont péri dans des conditions terribles. L'origine de l'incendie est encore inconnue. Les autorités ont évoqué l'éclairage à la bougie comme une possible cause. Autrefois riche quartier d'affaires, le centre de Johannesburg regorge maintenant d'immeubles abandonnés, souvent déconnectés du réseau électrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a lancé jeudi un vote anticipé dans les territoires ukrainiens qu'elle occupe dans le cadre d'élections organisées dans de nombreuses régions russes prévues le 10 septembre. Le point avec Rosine Mounezero.
Moscou occupe un peu moins de 20% du territoire ukrainien, la Crimée, annexée en 2014, ainsi que l'essentiel de la région de Lugansk et une partie de celle de Donetsk, Zaporizhia et Kherson. Les scrutins dénoncés par l'Ukraine se déroulent en soi le 10 septembre, mais les autorités d'occupation organisent un vote anticipé à compter de ce jeudi dans certaines de ces régions et dans d'autres à partir du 2 septembre. Il s'agit d'y désigner des députés régionaux et des élus municipaux. Malgré de vives condamnations des Occidentaux, la Russie a proclamé l'annexion de ces territoires en septembre 2022 à l'issue de ce que Moscou a présenté comme des référendums. Les alliés de l'Ukraine ne reconnaissent pas les résultats. De nombreuses régions de Russie vont voter également le 10 septembre. Aucune réelle opposition n'est représentée, car les opposants les plus célèbres du pays sont en prison ou en exil.
La reprise de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes est essentielle pour la sécurité alimentaire mondiale et la stabilité de la région de la mer Noire, a affirmé jeudi le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, en visite à Moscou. Nous avons réitéré notre conviction que la reprise de l'accord permettra de restaurer la stabilité dans les deux domaines, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse avec son homologue russe Sergei Lavrov. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. Maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec Claire Morin-Gibourg.
Au Burundi, le port de Bujumbura sera bientôt modernisé grâce à un financement de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. Ces travaux de quelques 79 millions d'euros s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'aménagement du corridor régional vers le lac Tanganyika. Les travaux devraient durer 24 mois. Les start-up africaines opérant dans le domaine des technologies financières ou fintech ont levé 2,7 milliards de dollars entre juillet 2021 et juin 2023, selon le rapport de Disrupt Africa. Ecofin précise que la majorité de ces fintech opèrent dans les secteurs des paiements, envoi de fonds, des prêts et financements et de l'administration des affaires. Aux États-Unis, l'inflation a recommencé à accélérer en juillet. La hausse des prix à la consommation a été de 3,3% sur un an contre 3% en juin, alors que la Banque centrale américaine veut ramener l'inflation à 2%. La Fed a relevé ses taux directeurs à 11 reprises depuis mars 2022. Ceux-ci sont désormais à leur plus haut niveau depuis 22 ans.
Place au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Adili, bonsoir à tous.
Yacouba, on commence par du basket avec le mondial de la balle au panier. L'Égypte gagne en match de classement.
Oui, après leur élimination, les Égyptiens se sont imposés 85 à 69 face aux Jordaniens. Victoire également pour le Soudan du Sud, 87 à 68 devant les Philippines. Ce sont les deuxièmes victoires égyptiennes et sud-soudanaises dans ce mondial de basketball. En revanche, l'Angola a perdu son match de classement 76 à 83 face à la Chine. Pour rappel, l'Afrique n'aura aucun représentant au tour suivant. Tous ces cinq représentants ont fini troisième de leur groupe, alors que seuls les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour suivant. Seul enjeu pour ces équipes africaines, se qualifier pour les Jeux Olympiques de l'an prochain à Paris.
Et tennis maintenant, avec les nouvelles de l'US Open.
Novak Djokovic a surmonté des conditions climatiques étouffantes pour battre l'Espagnol Bernabé Zapata 6-4, 6-1, 6-1. La troisième journée du tournoi a aussi été marquée par l'élimination prématurée de Stefanos Tsitsipas. Le Grec a craqué face au Suisse Dominique Stricker, qui s'est imposé 7-5, 6-7, 6-7, 7-6 et 6-3. Après un marathon de 4h04, de son côté, Dominique Thiem, manifestement souffrant, a été contraint à l'abandon au deuxième tour, alors qu'il était mené 7-6, 1-0 par l'Américain Ben Shelton. Dans le tableau féminin, la tenante du titre Iga Swiatek n'a pas été aussi dominatrice face à la 322e mondiale d'Aria Savi. La numéro 1 mondiale a mis 1h34 pour s'imposer 6-3, 6-4. Et puis Elena Rybakina, 4e mondiale, s'est qualifiée sans jouer pour le 3e tour en bénéficiant du forfait de son adversaire australienne Ajla Tomjanovic peu avant le début de leur match. La Danoise Caroline Wozniacki, ex-numéro 1 mondiale retraitée depuis l'Open d'Australie 2020, s'est offert une victoire de prestige au deuxième tour aux dépens de la Tchèque Petra Fitsova, 11e mondiale, 7-5, 7-6.
Football et racisme. Un comité de l'ONU alerte sur le racisme dans le sport en Italie.
Oui, le comité pour l'élimination de la discrimination raciale la dénonce. Les discours haineux et racistes en Italie. Une des expertes, Régine Esseneme, a indiqué que le comité évoque des agressions physiques et verbales à l'encontre d'athlètes d'origine africaine. Le comité recommande à l'Italie de porter une attention particulière sur ces cas qui deviennent récurrents contre les Noirs et les personnes d'ascendance africaine, notamment dans le cadre du football. Il demande que la législation nationale qui existe soit effectivement appliquée, que les poursuites soient engagées et que les auteurs reconnus coupables soient punis. En début d'année, l'attaquant belge de l'Inter Milan, Romelu Lukaku, a été exclu pour avoir célébré de façon jugée provocatrice son but en réponse à des cris racistes.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Dili Diko de retour avec vous. Passons à notre tranche magazine. Dès la fermeture des bureaux de vote au Gabon samedi, le gouvernement avait fait couper Internet et suspendu des médias français. Depuis le coup d'État, tout semble avoir été rétabli. Pour un point sur l'état de la presse dans le pays, Nathalie Barge a joint à Libreville Sylvana Raissa Oye-Aseko, directrice de publication de l'hebdomadaire Les Échos du Nord.
La situation de la presse au Gabon est déplorable. Les journalistes travaillent sans cesse sous la peur, travaillent dans la crainte et l'angoisse. Il suffit d'écrire ou de dire ce qui n'arrange pas l'agent régulateur, la haute autorité de la communication, pour voir son journal censuré ou encore mis en demeure. Les journalistes ont besoin de travailler sans craindre quoi que ce soit, ce qui n'est pas le cas au Gabon. Ils sont exposés à des violences à la fois psychologiques et physiques.
Et à présent, comment ça se passe ?
Pour le moment, nous ne pouvons pas nous prononcer sur les conditions de travail, de sécurité des journalistes. Nous ne pouvons pas dire si la crainte sera accentuée ou inversée. Ce que nous espérons, c'est de travailler en toute liberté, c'est d'assurer notre sécurité.
Et votre rédaction, comment peut-elle travailler ?
Depuis le coup d'État, la presse est totalement mobilisée. Les journalistes sont partout dans Libreville. Certains sont allés à l'intérieur du pays. D'autres n'hésitent même pas à solliciter les confrères des pays environnants parce que nous voulons vraiment ne rien rater et mieux nous imprégner de la situation. C'est à 4h du matin, heure où les Gabonais sont censés dormir, que les élections ont été proclamées. Dès cet instant, les journalistes ont compris qu'il y avait un problème et le matin, ils se sont mobilisés pour aller couvrir les événements.
Les militaires ont-ils envoyé des directives aux médias ? Est-ce que vous pensez pouvoir exercer librement par la suite ?
Les médias n'ont reçu aucune directive de la part des militaires. Ce que nous attendons des militaires, c'est qu'ils assurent notre sécurité, c'est qu'ils nous laissent travailler librement et qu'il y ait une meilleure communication entre eux et les journalistes. Ce que je peux dire, c'est que la population est contente. Partout où nous sommes passés, les télés sont allumées, les attroupements sont là, non pas pour casser comme en 2009 et en 2016, mais pour se réjouir. C'est-à-dire que les Gabonais attendent vraiment de ce gouvernement des militaires, ou du moins de ce gouvernement de transition, beaucoup de choses. Nous avons soif de changement, nous avons soif de liberté.
Sylvana Raissa Oye-Aseko, directrice de publication du journal Les Échos du Nord au Gabon. Au Cameroun, le coup d'État au Gabon ne laisse pas les Camerounais et même certains résidents gabonais indifférents. La situation qui prévaut depuis hier à Libreville a déjà des conséquences sur les activités économiques à Yaoundé, comme a pu le constater notre correspondant Emmanuel Julntap.
Par crainte de représailles contre sa famille qui vit dans la province de l'Estuaire au Gabon, Roland Fabrice, un Gabonais résident à Yaoundé, n'a pas souhaité être filmé à visage découvert.
Ah, mais finalement, nous sommes très fiers parce que c'est un régime auquel nous avons trop été marginalisés par ce régime et nous sommes soulagés, nous sommes libres. On s'inquiète pour ceux qui sont là-bas, donc nous sommes obligés de prendre des nouvelles. Bon, pour l'instant, on nous donne, les nouvelles sont bonnes, ça nous rassure.
Une assurance qui n'est pas partagée par certains Camerounais à l'instar de Vicky Florette. Elle travaille pour une entreprise de fret terrestre entre le Cameroun et le Gabon. Dans le magasin de l'entreprise, des colis en attente d'expédition.
Du moment où il y a la marchandise, les voitures vont tous les jours. Bon, actuellement, on n'arrive même pas à charger une voiture parce que la tristesse est tout.
Même désarroi, dans ce marché de Yaoundé, principal point de ravitaillement en fruits et légumes destinés au Gabon.
Hier, je suis venu avec la marchandise. On a bien chargé dans les camions qui partent au Gabon. Arrivé à la frontière, on nous signale que les frontières sont fermées. À la frontière Gabon-Cameroun, que les frontières sont fermées. On est obligé de retourner avec la marchandise pour le Cameroun Yaoundé.
Les pertes sont énormes pour ce jeune qui exporte des ananas vers le Gabon.
Parce que le livreur, celui qui m'a donné les ananas pour envoyer au Gabon, il est là, il veut son argent tranquillement, il n'y a pas. Donc nous, on subit ce qui se passe là-bas, dans ici.
Si côté officiel, c'est encore le silence à Yaoundé, d'autres secteurs s'expriment. La presse privée relaie abondamment le sujet et le public en parle.
Un président qui a passé 42 ans au pouvoir, les partis, son fils, il passe 14 ans au pouvoir. Il va encore prendre pour la troisième fois pour gouverner. Ça suscite la colère des citoyens.
Pour cet expert, le coup d'État au Gabon est un moindre mal pour ce pays et la sous-région.
Eh bien, il est possible que véritablement dans le théâtre gabonais, que nous, les autorités militaires, sous le prisme de cette volonté de changement affirmée par le peuple gabonais, aient pris le pouvoir, mais que véritablement nous restions dans la continuité de l'ancien régime. Et donc, la prise du pouvoir par les autorités militaires me semble être le scénario le moins risqué, non seulement pour ce pays-là, mais également pour les États voisins.
Le Cameroun et le Gabon partage une frontière terrestre de 298 km. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le coup d'État au Gabon qui a mis fin à 14 ans de règne du président Ali Bongo Ondimba et plus de 5 décennies de pouvoir des Bongo. Très tôt mercredi, des militaires sont apparus à la télévision pour annoncer la fin du régime et la suspension des institutions peu après la proclamation des résultats donnant le président Bongo vainqueur. Avec nos invités, nous analyserons le putsch au Gabon, ses causes et ses répercussions au niveau national et dans la région. Rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Il y a 2 ans, les députés béninois ont adopté à l'unanimité la loi sur la biosécurité afin de permettre aux populations de protéger l'environnement et de se mettre à l'abri des dangers qui résident dans le transfert, la manipulation et l'utilisation des OGM. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
En adoptant la loi sur la biosécurité, le Bénin prend une place prépondérante dans la lutte contre les effets néfastes des organismes génétiquement modifiés. Massim Goussé est un agent en service au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche.
Le gouvernement du Bénin a déjà travaillé à mettre en place une législation favorable à cette question. C'est la loi d'orientation agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle que nous avons au Bénin, qui a mis l'accent sur la souveraineté alimentaire, les questions donc de conservation des ressources naturelles, la biodiversité et toute autre chose que vous savez, qui rentre en ligne de compte de permettre à ce que nous allons éviter de distraire nos semences, de donner de l'importance à la semence paysanne et de donner de l'importance donc au plan que nous avons en Afrique.
Cette loi vient renforcer le combat que mènent depuis des années des personnes en ressources comme Jeanne Zondi-Ekpon, agroécologue, maître de conférences en génétique. Pour elle, il s'agit aussi de montrer la voie à suivre pour sauver le monde paysan.
Nous avons lutté ensemble contre les organismes génétiquement modifiés. Et à un moment donné, nous nous sommes dit, mais on ne va pas être dans la lutte que certains appellent négative tout le temps. Nous allons montrer que nous sommes des scientifiques et nous savons de quoi nous parlons. Donc c'est à partir de là que nous avons adopté l'approche agroécologique. Et nous avons montré qu'avec l'agroécologie, on peut produire tout autant qu'avec les biotechnologies. C'est une question de choix, c'est une question de volonté politique.
C'est dans ce cadre qu'a eu lieu au Bénin la 3e édition de la Foire ouest-africaine des semences paysannes et qui a réuni 24 pays avec des participants soucieux de la montée en puissance des OGM au sein de l'agriculture. Régulièrement, des séances de formation et de partage sont organisés pour donner aux agriculteurs et autres spécialistes les rudiments nécessaires. Omer Agologan est membre du COASP Bénin, le Conseil ouest-africain des semences paysannes.
Personne ne peut dire à son prochain ce qu'il doit manger. La première liberté commence par la nourriture. Même un bébé, quand tu lui donnes ce qu'il ne veut pas, il refuse. Je crois que nous sommes rassemblés autour de la question de la nourriture, de l'alimentation. Et depuis 2009, que moi j'ai commencé par participer aux foires, j'ai la conviction que de plus en plus, les gens sont en train de prendre conscience de la question de l'alimentation, de l'agriculture dans les pays africains. Sinon, les gens parlent souvent de la sécurité alimentaire. Même de plus en plus, on parle de la souveraineté alimentaire.
Et c'est pour relever ce défi que les agriculteurs ouest-africains organisent des rencontres pour évaluer les résultats de leurs différentes actions. Clémence Simba-Lankwandé est la coordonnatrice du Sénabio Burkina Faso. Elle était au Bénin avec Compaoré Ouédraogo, également membre du Conseil national de l'agriculture biologique au Burkina Faso.
En tant que promoteur de l'agroécologie, la semence paysanne est très importante parce que c'est la semence recommandée. Ça nous permet de mieux promouvoir l'agroécologie, de préserver notre identité, notre culture. Donc, c'est pour ça que les acteurs font la promotion de la semence paysanne.
De Cotonou, c'est la plus attendue pour VOA Afrique.
Une cinquantaine de personnes ont été tuées hier à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'une manifestation contre la mission onusienne et les forces des États d'Afrique de l'Est. Eddie Sango a joint à Kinshasa l'un des membres de la Lucha, lutte pour le changement. Bienvenue, Matumo.
Hier à Goma, il s'est passé un carnage commis par les FARDC qui ont décidé d'aller tuer les manifestants qui appartiennent à un groupe religieux connu à Goma. Et déjà moi, en parlant avec des familles de victimes, j'ai pu identifier qu'il y avait plus de 50 morts. Et donc, que les documents de l'armée sortent aujourd'hui disant plus ou moins 43 personnes, ça montre quand même que les morts sont nombreuses et on ne veut pas se taire. C'est pourquoi très rapidement, nous, Lucha et d'autres sorties de la jeunesse de Goma, j'ai vu beaucoup de députés nationaux, des leaders de l'opposition, sont en train de demander qu'il y ait des enquêtes indépendantes pour clarifier cette situation. Une tension est vive à Goma où les gens veulent absolument que la sanction soit prise et que l'état de siège soit levé et que le gouverneur militaire soit arrêté immédiatement et jugé à Fagas parce que c'est lui qui est le commandant des opérations Nord-Kivu.
Mais qu'est-ce qui explique qu'il y ait eu autant de morts alors que la manifestation avait été annoncée, bon, même si elle était interdite?
La question est posée au gouverneur militaire qui a donné l'ordre d'aller tuer les jeunes. Pourquoi est-ce qu'on tuerait les jeunes non armés, non violents, et encore qui, si ces manifestants allaient demander le départ de la MONUSCO? Donc l'action n'était même pas orientée vers le gouvernement congolais ou le gouvernement militaire du Nord Kivu. L'action est orientée vers la MONUSCO. Et c'est pas la première fois que cette église manifeste à Goma. Moi, j'étais à Goma le 30 juin 2023. Ces jeunes ont manifesté par milliers. Ce sont des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards qui manifestent pieds nus d'ailleurs, avec leurs symboles liés à leur spirituel. Religieuse. Donc, qu'on aille les tuer comme ça, comme des sauvages, moi, ça me pose un problème.
Vous parlez d'une église ou d'une secte, alors qu'on parle des Ouazalendou, qui sont des combattants d'anciens miliciens réservistes aujourd'hui.
Non. C'est une confusion que les gens fassent. Alors, je parle de la secte religieuse qui s'appelle aussi Ouazalendou. Ouazalendou signifie patriote, parce qu'ils militent pour le départ de la MONUSCO, contre l'impérialisme, et pour cette église-là, la MONUSCO représente des au Congo. C'est pourquoi ils s'appellent Ouazalendou. Ce ne sont pas les Ouazalendou, les groupes armés, les réservistes de l'armée qui ont combattu contre M23. Non. Et ils sont des civils, des religieux qui croient à une nouvelle forme d'indépendance du Congo, en chassant la MONUSCO, en chassant la force d'occupation de l'ASC et toutes les forces extérieures qui sont au Congo. Ça n'a rien à voir avec les groupes armés qu'on appelle aujourd'hui Ouazalendou parce qu'ils ont été au front avec les FARDC. Non. C'est deux choses différentes. Tout ça de la non-violence et non jamais eu d'armes à feu.
Certains pensent que les Ouazalendou, ces mouvements, la manifestation d'hier, c'était pour pérenniser justement l'état de siège, la fin de l'état de siège que la population ou d'autres personnes réclament.
Non, c'est faux. Ce groupe-là a déjà manifesté trois fois dans la ville de Goma et encadré par la police. Et rien ne s'est passé comme incident. Pourquoi hier on a voulu les réprimer?
Bienvenue Matumo, membre du mouvement citoyen Lucha, lutte pour le changement. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma, Dilidico à la présentation. Merci à toute l'équipe de production et merci pour votre fidélité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voafrique.com et sur nos plateformes Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.